La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. On est reparti ensemble pour une semaine d'actualité locale et pour cette première émission de la semaine, je vais me tourner vers toi Clémence qui m'accompagne en studio puisque c'est toi qui, on peut le dire, a réalisé quasiment intégralement cette émission.
C'est la semaine de la visibilité des personnes transgenres ou la Trans Awareness Week. C'est le moment pour les personnes trans et les alliés de partager les histoires, les vécus des personnes trans ainsi que des informations sur les transidentités pour sensibiliser et éduquer le public. Donc c'est une semaine qui a été créée par la militante trans Gwendoline Ann Smith en mémoire de Rita Hester, une femme trans aussi qui a été tuée en 1998. Au niveau de l'actualité, on peut rappeler que Sarah McBride est la première femme transgenre à avoir été élue au Sénat du Delaware aux États-Unis. Elle a quand même récolté 86% des suffrages dans son État, c'est pas mal du tout. Et enfin, on peut parler de trois modèles d'engagement pour les droits LGBTQIA+, avec Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera, donc toutes les deux femmes trans accompagnées de Stormy de Larvery, une lesbienne butch. Donc toutes les trois sont des personnes racisées et elles sont à l'origine des échauffourées de Stonewall en 1969. Donc des émeutes qui ont donné lieu à ce qu'on connaît aujourd'hui, la Pride ou Marche des Fiertés et non pas Gay Pride. Ça a lieu tous les ans en juin, un peu partout dans le monde. Et après ce petit point historique et contextuel, je vous laisse avec l'entretien qui a été enregistré avec Archibald du Pôle Trans du Quasar la semaine dernière. Aujourd'hui, on va donner la parole à celles qui n'ont pas assez. On accueille Archibald, membre du Quasar ou Quasar, l'association LGBTQIA+ d'Angers. Bienvenue à toi.
Bonjour.
On va profiter de ta venue pour tenter de faire un peu de sensibilisation tout en présentant l'association dont tu fais partie. Toi, tu es référent au pôle trans du Quasar. Concrètement, c'est quoi ton rôle ?
Alors bah déjà c'est un pôle très récent puisqu'il a été créé cet été et mon rôle c'est en tant que référent d'accueillir toutes les personnes trans ou les personnes liées à des personnes trans qui se posent des questions, qui souhaiteraient échanger entre eux et entre elles et puis m'occuper d'appeler les médecins, m'occuper de conseiller les gens. En fait je suis un peu sur tous les plans qui peuvent être liés à la transidentité.
Il y a plusieurs pôles dans l'association. J'ai vu qu'il y avait un pôle juridique pour aider aux démarches, par exemple pour des dépôts de plaintes. On rappelle que les insultes à caractère homophobe, donc depuis 2004, et les insultes à caractère transphobe depuis 2013 sont passibles de poursuites judiciaires. Qu'est-ce qu'il y a comme autre pôle au Quasar ?
Donc, comme tu dis, il y a le pôle juridique qui peut aider sur ces questions, qui peut même se constituer en tant que partie civile lors de procès, etc. Donc c'est tout au long des démarches juridiques, que ce soit discrimination ou aide au sein des foyers à régler des affaires. Il y a le pôle, le PEP, la sensibilisation auprès des écoles et ce genre de choses. Donc les gens qui viennent parler justement, de définir les différentes lettres de LGBT, expliquer aux professeurs, aux élèves lors de temps de parole dédiés en cours. Il y a surtout le plus grand pôle, le plus important de Quasar, c'est le pôle pour les demandeurs et les demandeuses d'asile et voilà, leur obtenir des statuts de réfugiés et les aider à vivre leur sexualité ou leur identité de genre pour lesquels ils ont été soit expulsés de leur pays, soit discriminés dans leur pays d'origine.
Donc des demandes d'asile en tant que personne LGBTQIA, c'est ça ?
Exactement, voilà.
Pour revenir au pôle trans, donc il y a un groupe de parole appelé Transat ainsi qu'un autre appelé Transparent. C'est une fois par mois, en ce moment ça se passe en visio. Qu'est-ce que vous y faites ?
Alors on a ajouté une nouvelle date pour le Transat, donc pour les personnes trans. Donc je vais expliquer les deux groupes pour mieux comprendre. Donc il y a deux temps par mois pour Transat, c'est donc un groupe de parole dédié et réservé aux personnes trans. Donc là, c'est pour accueillir toutes les personnes concernées au premier plan, qui sont elles-mêmes transgenres. et qui viennent échanger de leur vécu, qui viennent poser des questions, qui viennent tout simplement rencontrer du monde qui leur ressemble. Transparent, c'est un autre temps. Alors lui, il a effectivement lieu qu'une seule fois par mois. On accueille tous les parents des personnes trans, alors c'est parents au sens large, tous ceux et celles qui ont des liens de parenté avec les personnes trans, donc ça peut être les frères, les sœurs, les oncles, les tantes. On les accueille sans les personnes trans pour libérer leurs paroles, libérer leurs questions et sans qu'il y ait de dommages ou de sur les personnes trans. En fait, tout le monde puisse débriefer et dégoupiller la situation dans son temps et sa zone privée. Bientôt, on a le pôle jeune, j'en profite pour en parler, des 12-25 qui va reprendre des activités et qui sera ouvert à toutes les personnes LGBT dans ces âges-là. Voilà.
Concernant Transparent, ce sont des parents qui sont venus vous voir pour demander ces temps d'écoute ?
Oui, exactement. En fait, de base, on a créé uniquement Transat, parce que ça semblait évident que les personnes trans souhaitent se rencontrer, parler et pouvoir échanger. On a accueilli de plus en plus de parents qui, d'eux-mêmes, se demandaient pourquoi ça n'existait pas, en fait, des soutiens entre parents, parce que c'est compliqué d'être à la fois parent et parent de personnes trans, de gérer ça par le prisme de la parentalité. Et donc, c'est complètement de leur souhait qu'on a créé ce groupe parce que y avait une forte demande en fait. C'était par habitude qu'on mettait de côté les proches parce qu'ils n'étaient pas concernés directement par la question et on a appris avec le temps que leurs paroles et leurs réflexions étaient tout aussi importantes, d'où la création de Transparent.
Leurs premiers retours sont donc assez positifs.
Super positif, oui. Et d'ailleurs, le fait d'être en visioconférence, malheureusement, freine un peu plus les parents qui ont besoin d'un soutien beaucoup plus physique, un support beaucoup plus physique, contrairement aux enfants qui s'en fichent de la visioconférence ou quoi. Donc les parents, on sent qu'il y a vraiment un besoin de contact humain et de réseau d'amis, en fait, finalement.
Concernant, justement, plutôt pour revenir sur Transat, même si ça concerne aussi Transparent, vous accueillez les personnes agenres, transgenres et non-binaires. On va peut-être expliquer ces termes pour les personnes qui ne sont pas familières avec. N'hésite pas à me reprendre si jamais je me trompe. C'est les définitions qui sont issues du compte Instagram Agressively Trans. C'est tenu par une militante, Lexi, et elle fait un travail de pédagogie vraiment exceptionnel. Donc, agenre, c'est une identité de genre pour laquelle une personne ne s'identifie à aucun genre du spectre. Et Archibald, je vais te laisser la place pour parler des transidentités.
Alors, les personnes trans sont donc des personnes qui ont été assignées dans un genre particulier, homme ou femme, par du temps. En grandissant, ne se reconnaissent pas dans ce genre qui leur a été assigné à la naissance. Alors, on parle donc de transgenre, contrairement aux cisgenres. Les cisgenres sont des personnes à qui on a assigné un sexe à la naissance et qui, en grandissant, s'épanouissent dans ce sexe qu'on leur a attribué. Voilà pour les transgenres.
Merci beaucoup. Et enfin, la non-binarité. C'est une identité de genre qui fait partie du spectre des transidentités. C'est quand on a un rapport au genre qui dépasse les représentations binaires. Donc, dans la société, on considère de façon générale, c'est comme ça qu'on nous éduque, qu'on est soit un homme, soit une femme. Et là, c'est passer au-dessus de ces représentations. Il y a des façons très diverses d'être non-binaire. On peut par exemple se reconnaître dans les deux genres en même temps, d'être d'un troisième genre, ou encore d'un côté majoritaire du spectre. Donc, pendant ces temps d'écoute, Vous abordez les démarches médicales pour obtenir, par exemple, des hormones. Est-ce que vous connaissez du personnel de santé safe et informé dans la région ou sur Angers même ?
Oui, sur Angers, sur Cholet, sur Nantes, sur Anceny, on a quelques noms. Alors, c'est très difficile d'en obtenir. Il y a un lien dont on peut parler aujourd'hui, c'est BDD Trans, qui est donc la base de données pour les personnes transgenres, qui regroupe tous les médecins notés, on va dire, mais enfin recommandés, sur le territoire français. Donc à Angers, on a quelques noms en plus, nous, à Quasar, parce que, comme je te dis, on appelle les médecins, on essaie de les sensibiliser, et puis même du fait de les côtoyer, là, moi, en tant que personne trans, j'en ai côtoyé sur Angers, j'en connais aussi de manière personnelle. Donc oui, il y a du personnel safe, heureusement, sur Angers, sur les environs, et même en campagne, là, on essaie de créer du réseau un peu plus élargi, quoi.
Vous fournissez aussi des conseils pour les démarches administratives. Déjà qu'en France, c'est assez compliqué, l'administratif. Alors aujourd'hui, l'administration française repose encore donc, sur le système de représentation binaire que je mentionnais à l'instant. Donc les personnes transgenres peuvent vouloir avoir leur prénom sur leur carte d'identité et non plus leur dead name. Le dead name, c'est le prénom qui leur a été assigné à la naissance et ils peuvent aussi demander un changement d'état civil, c'est-à-dire enlever, remplacer le monsieur-madame sur leur carte d'identité. Pourquoi c'est important de faire ces démarches, sachant qu'elles sont vraiment très énergivores ?
Tout simplement pour être reconnu. C'est affirmer son identité, c'est être reconnu par la société pour l'identité qu'on vit, et c'est très frustrant et très agressif en fait de se voir imposer une identité. Et ça peut être, on s'en rend pas compte quand on ne le vit pas, mais le simple fait d'acheter une baguette ou de prendre un train, on est en permanence confronté à son identité, de par les appellations, comme tu dis, de politesse, bonjour madame, bonjour monsieur, mais aussi lors de contrôles dans les transports, dans le train, dans le tram, dans le bus. Et donc, c'est tout simplement pouvoir se présenter et se faire reconnaître, en fait, et se faire identifier comme on le souhaiterait.
Quels documents sont nécessaires, par exemple, pour monter un dossier pour faire un changement d'état civil ?
Alors, c'est très compliqué. Déjà, il faut dissocier les mineurs émancipés et les majeurs. Pour les mineurs, j'aimerais rappeler ici que c'est possible de changer son prénom. C'est aussi possible de changer son sexe. Malheureusement, la contrainte, c'est que tous les représentants légaux de cette personne mineure doivent être en accord avec cette volonté de changement de papier. Le prénom est beaucoup plus simple à obtenir parce que les textes de loi sont beaucoup plus clairs, en fait, tout simplement. Alors que le texte de loi concernant les mineurs vis-à-vis du changement de leur sexe à l'état civil est beaucoup plus flou. On parle du fait que les personnes majeures et les mineurs émancipés peuvent changer la mention du sexe, mais on ne précise pas les personnes mineures non émancipées. Donc, elles peuvent se battre pour obtenir un sexe sur le sexe souhaité sur leur état civil, si évidemment les responsables légaux sont en accord. Mais c'est vrai que ça reste encore du travail à faire, puisque il n'a pas été mâché par l'état civil, contrairement aux autres états civils qu'on peut demander, nous, en tant que personnes majeures. Pour les personnes majeures, c'est plus simple d'en parler là. Aussi, il y a des sous-classons là-dedans, donc il y a encore cette histoire de « je veux changer uniquement mon prénom dans un premier temps » et changer plus tard la mention de mon genre ou une de ces deux choses.
En fait, il n'y a vraiment rien dans la loi pour aider, pour appuyer les démarches de changement d'état civil.
Alors, si, il y a eu beaucoup d'évolutions. C'est pénible pour les personnes mineures, mais il y a eu beaucoup de progrès, donc il faut rester positif. Pour le changement de prénom, c'est assez simple, on va dire, dans le sens où déjà on ne passe pas au tribunal. Ça se passe à la mairie, de là où on réside ou de là où on est né. Il faut des pièces assez simples, de type déjà prouver son identité, sa carte d'identité, ses cartes d'études, rendre ses bulletins de paix, etc. Prouver son lieu de résidence, avoir son acte de naissance et des témoignages ou des preuves de l'utilisation de son identité souhaitée. Voilà, si un proche vous écrit une lettre en disant « j'affirme que moi je connais cette personne sous ce nom et qu'il se genre bien dans le genre qu'il estime », vous pouvez changer facilement votre prénom. Pour le sexe, c'est plus compliqué, mais c'est mieux qu'avant. Restons positifs. Déjà, on n'a plus besoin d'être opéré. Avant, on était obligé d'être stérilisé, d'avoir fait une réassignation sexuelle, c'est-à-dire d'avoir changé de partie génitale. C'était obligatoire. C'est hyper récent, j'avais 2012 en tête, mais oui, c'est possible que ce soit. De toute façon, c'est après 2010, c'est sûr. On peut se féliciter de ça. L'avocat, donc ça se passe toujours au tribunal, malheureusement. Cependant, l'avocat n'est plus obligatoire, c'est une procédure gratuite, donc on peut y aller sans avoir à débourser pour un avocat pour constituer un dossier. On peut le faire de chez soi. Moi, j'ai fait mon dossier tout seul et je suis allé à l'audience tout seul, ça s'est très bien passé. C'est assez court, d'ailleurs, sur le moment. C'est juste contraignant parce que ça demande un peu plus de preuves. Officiellement, il faudrait les mêmes preuves que pour le prénom, sauf que officieusement, en fonction des tribunaux, jurés qui sont présents, parce que c'est une petite dizaine de jurés sur place, peuvent te questionner sur ta vie sexuelle, peuvent te questionner sur des détails de ta vie sentimentale ou professionnelle. Donc, en fonction des tribunaux, la démarche peut être transphobe et on peut te refuser ton état civil parce que voilà, le président présent est clairement transphobe. Vous pouvez trouver, si vous êtes une personne trans et vous cherchez à faire ces démarches, il y a des classements, des tribunaux en France, des plus ouverts aux moins ouverts. À Paris, on a constaté beaucoup de personnes qui allaient changer leur état civil sans même être hormonées, donc sans présenter de preuves médicales, ce qui n'est d'ailleurs pas demandé officiellement, encore une fois, mais souvent on la présente. Donc il y a des personnes qui ne sont pas hormonés, qui ont changé, qui ont réussi à obtenir leur changement de sexe à l'état civil, en étant dans des tribunaux parisiens. Mais on a des tribunaux comme Strasbourg et Nantes qui sont très mal cotés sur la question et dont il faut souvent charger son dossier pour être mieux pris en compte, malheureusement.
Pour parler de la ville d'Angers, est-ce qu'elle est assez réceptive à ces démarches au niveau de l'administration ?
Eh bien, le tribunal de grande instance d'Angers, j'y suis passé, j'ai des amis qui y sont passés et les avis diffèrent. Donc il y a eu autant de questions mal placées et transphobes que des audiences parfaites. La mienne a duré 5 minutes et les personnes étaient au top. Et j'ai des amis qui malheureusement ont été questionnés sur des choses qui pas lieu d'être lors d'un tribunal sur ce genre de questions liées à l'état civil. Donc, c'est un peu en fonction de la commission présente, en fonction de l'équipe présente. Malheureusement, encore à Angers.
Ça fait partie des informations que vous pouvez partager pendant les heures d'écoute.
Exactement. Et en dehors de ces groupes de parole, on accueille aussi les personnes en rendez-vous individuel pour parler un peu plus précisément de leur situation. Quand elles nous demandent conseil parce qu'elles ne sont pas forcément situées sur Angers, etc., on peut les inviter à consulter tel ou tel médecin, tel ou tel tribunal. Voilà.
Merci beaucoup Archibald pour ton passage et toutes ces informations. Est-ce que tu peux rappeler les dates et les horaires des prochains temps d'écoute pour Transat et Transparent ?
Alors, en vue de la pandémie, on a des dates qui ne sont pas prévues avec beaucoup d'avance. En revanche, on a déjà celle de novembre, évidemment. On a le 21, toujours un samedi, le temps des jeunes, le 12-25, qui est en train de se mettre en place, mais vous pouvez déjà vous inscrire pour ce temps-là. Et on a finalement le jeudi 26, alors j'ai plus les horaires en tête, des horaires un peu plus nocturnes, toujours pareil, Transat, donc un peu plus nocturne et toujours sur Discord. Donc vous pouvez nous contacter via Instagram en cherchant notre profil qui est Quasar, Quazar-8 Angers, ou par mail à team, comme équipe en anglais, -trans@quasar.fr, qui est donc, vous allez tomber directement sur moi puisque c'est mon mail en tant que référent. Et les inscriptions se passent par là.
D'accord, merci beaucoup. Et il est bien sûr possible de retrouver les événements organisés par l'association de façon générale sur leur site quasar.fr.
Et un grand merci à Clémence pour cette interview. Nous, on se retrouve juste après Ayoune Soulé. Le titre, c'est Keleke.
Okay. kale mina hongo zinya Bala tu manjele Taro tira sunga sire na sanyana pakure Ay
sur Radio Campus Angers, toujours dans la Covidienne. Il est temps pour nous de nous quitter. On se retrouve dès demain pour une nouvelle quasi-quotidienne d'information. Et ce soir, votre programme, c'est lundi, c'est votre soirée Reggae Roots Dub avec les traditionnels Mellow Dub et Bamboo Station pour des émissions réalisées depuis chez eux. Voilà, très belle soirée à toutes et à tous sur les ondes de Radio Campus Angers. On se retrouve demain, d'ici là, portez-vous bien.